Étape par étape. J'ai une question importante pour vous ce matin. Quelle est la prochaine étape que l'Esprit de Dieu vous guide à prendre? Quand j'étais enfant, il y avait un chant de louange qui s'appelait « Step by Step ». Peut-être que vous le connaissez. Il disait « Ô Dieu, tu es mon Dieu, et je te louerai toujours, ô Dieu. Tu es mon Dieu, et je te louerai toujours. Je te chercherai dès le matin, et j'apprendrai à marcher dans tes voies. Et pas à pas, tu me conduiras, et je te suivrai tous les jours de ma vie. J'apprendrai à marcher dans tes voies. Étape par étape, suivre Jésus alors qu'il nous conduit. La vie chrétienne, ce n'est pas comme un ascenseur, dans lequel on passe rapidement par d'autres étages. Ce n'est pas comme un ascenseur. C'est comme monter un escalier. Aller étape par étape, à mesure que l'on grandit en Christ. Pas à pas, tu me conduiras, et je te suivrai tous les jours de ma vie. La vie chrétienne est toujours en mouvement. Dieu vous conduit toujours quelque part. Quelle est la prochaine étape que l'Esprit de Dieu veut que vous preniez maintenant?
Si vous avez une Bible, veuillez l'ouvrir avec moi à Jean, chapitre 16. Depuis quelques semaines, nous examinons ce que l'on appelle le discours dans la chambre haute dans l'Évangile de Jean. Il s'agit d'un ensemble d'enseignements que Jésus a donné à ses disciples lors du dernier repas, la nuit précédant sa crucifixion. Nous avons commencé au chapitre 13 et nous sommes maintenant au chapitre 16. Je vous ai dit ces choses afin que lorsqu'ils viendront, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Je ne vous ai pas dit ces choses dès le commencement, parce que j'étais avec vous. Mais maintenant, je vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande « Où vas-tu ?» Mais, parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Dans le chapitre précédent, Jésus a parlé de la persécution qui viendrait sur les disciples à cause de leur décision de le suivre. Il les a avertis du prix à payer pour le suivre. Il leur a dit de ne pas être surpris si le monde les hait, car ils l'ont haï, lui le premier.
Jésus continue d'expliquer aux disciples qu'il doit bientôt les quitter, qu'il doit retourner au ciel auprès de Dieu le Père. Il est compréhensible qu'ils soient tristes. Leur ami, leur rabbi, leur maître va les quitter. Que feront-ils sans lui? Néanmoins, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Jésus leur dit qu'il ne va pas seulement partir, mais que c'est une bonne chose qu'il parte, que c'est à l'avantage des disciples. Pourquoi? Comment cela pourrait-il être bien qu'il les quitte? Parce qu'en partant, le Consolateur, le Saint-Esprit, viendra à eux. Jésus en avait déjà parlé dans les chapitres précédents. Le Consolateur, c'est le Saint-Esprit qui vient à nos côtés pour nous aider.
La Bible nous enseigne qu'il n'y a qu'un seul Dieu.
Et notre Dieu unique existe en trois personnes. Dieu le Père, Jésus le Fils et le Saint-Esprit.
Ils ne sont pas trois dieux,
mais ils sont un seul Dieu existant en trois personnes. Ils sont un en essence et un en substance. Mais ils sont distincts les uns des autres et accomplissent différentes tâches.
Lors du salut, lorsque vous vous repentez de votre péché et que vous croyez en Jésus-Christ,
la Bible dit que le Saint-Esprit vient et habite en vous.
Nous sommes scellés du Saint-Esprit. Il prend une résidence permanente dans nos vies.
Ainsi, le Saint-Esprit est en vous, mais que fait-il?
Dans les chapitres précédents, nous avons appris que le Saint-Esprit nous aide dans notre foi.
Le Saint-Esprit nous enseigne.
Le Saint-Esprit nous rappelle ce qui est vrai.
Le Saint-Esprit rend témoignage de Jésus-Christ à travers nous.
Et dans les prochains versets, nous en apprendrons davantage sur ce que l'Esprit fait en nous.
8. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement.
9. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi.
Que fait d'autre le Saint-Esprit?
Il convainc les gens de péché, de justice et de jugement.
Le péché, c'est lorsque nous transgressons la loi de Dieu et nous rebellons contre lui.
La Bible dit que nous avons tous péché et que nous sommes privés de la gloire de Dieu. Le péché nous sépare de Dieu. La Bible dit qu'avant de connaître Jésus, nous étions spirituellement morts dans nos péchés et nos offenses.
Alors, comment quelqu'un qui est spirituellement mort devient-il spirituellement vivant? C'est par l'œuvre du Saint-Esprit. En d'autres termes, je peux dire à quelqu'un toute la journée et toute la nuit que ce qu'il fait est mal.
Je peux lui dire toute la journée et toute la nuit que ce qu'il fait est pécheur et contre la volonté de Dieu. Je pourrais parler et parler encore.
Mais rien ne se produira tant que le Saint-Esprit n'aura pas convaincu cette personne de son péché. C'est le travail du Saint-Esprit. Ce n'est pas mon travail. Le Saint-Esprit peut m'utiliser pour cela, mais ce n'est pas quelque chose que je peux faire par mes propres forces.
C'est l'œuvre surnaturelle de Dieu dans la vie de cette personne. Ici, dans les versets 8 et 9, Jésus parle du Saint-Esprit qui convainc les non-croyants de leurs péchés. Au verset 9, Jésus parle des personnes qui ne croient pas en lui. Le monde, comme nous en avons parlé la dernière fois. Nous pouvons avoir de l'assurance pour partager l'Évangile avec les personnes qui ne croient pas en Jésus, car nous avons confiance que l'Esprit de Dieu agit dans leur vie, les convainquant de péché. Ainsi, le Saint-Esprit convainc les non-croyants de péché, mais nous savons aussi que le Saint-Esprit convainc les croyants de péché également.
Quel est le nom de ce membre de la Trinité?
Le Saint-Esprit.
Le Saint-Esprit nous rend plus saints. Il nous sanctifie. Il nous purifie du péché afin que nous soyons davantage semblables à Christ.
Et si, à mesure que nous grandissons dans notre foi, nous devenons plus conscients du péché dans nos vies par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous convainc de péché et nous cherchons à faire mourir ce péché en suivant Christ.
Et Dieu est plein de grâce envers nous. En général, il ne nous convainc pas de tous nos péchés en même temps.
D'après mon expérience, le Saint-Esprit attire mon attention sur un péché particulier, pas sur 100 péchés à la fois.
Et j'aimerais dire qu'au moment où le Saint-Esprit me convainc de ce péché, je me repens et j'en ai terminé avec ce péché. Mais en général, je lutte avec ce péché pendant un certain temps avant de le déposer devant le Seigneur.
Mais une fois que j'ai remis ce péché au Seigneur, après un certain temps, le Saint-Esprit me convaincra d'autre chose. Et souvenez-vous, le but de la conviction du Saint-Esprit n'est pas de vous faire vous sentir mal dans votre peau. La conviction n'est pas la même chose que la condamnation.
Comme quelqu'un l'a dit un jour, la conviction nous rapproche de Dieu, tandis que la condamnation nous éloigne, nous laissant dans la culpabilité et le désespoir.
Le but de la conviction du Saint-Esprit est de vous rendre plus saint, plus semblable au Christ,
libre du péché qui peut si facilement nous enlacer.
En d'autres termes, ce péché vous ralentit dans le fait de devenir l'homme ou la femme de Dieu que Dieu veut que vous soyez. Et le Saint-Esprit veut vous voir libre de cela.
Je pense aussi qu'il y a une progressivité, si je puis dire, dans la conviction du Saint-Esprit à mesure que nous grandissons en Christ.
Il y a des choses dont le Saint-Esprit me convainc aujourd'hui qui ne me dérangeait pas vraiment lorsque je suis devenu croyant.
Par exemple, lorsque je suis devenu croyant, il n'arrivait encore de mentir aux gens. Et pour être honnête, je ne me sentais pas vraiment mal à ce sujet à l'époque. Mais aujourd'hui, je ne peux pas imaginer mentir à quelqu'un et me sentir bien avec ça.
À l'époque où je suis devenu croyant, j'avais aussi le Saint-Esprit. Mais il me convainquait probablement d'un autre péché à ce moment-là. Une fois que je me suis repenti de ce péché et que j'ai grandi, alors le Saint-Esprit a fini par me parler du mensonge.
C'est ce que l'on appelle la sanctification progressive. À mesure que nous grandissons en Christ, que nous obéissons à sa parole, nous nous séparons du mal. Nous progressons dans ce domaine.
C'est graduel. C'est comme monter les escaliers. Ce n'est pas comme prendre l'ascenseur, où l'on saute de nombreux étages. Maintenant, je ne suis pas un joueur. En grandissant, j'ai un peu joué aux jeux vidéo. Mais j'étais plus souvent dehors. J'aimais faire du sport et jouer en plein air. Donc, quand je jouais aux jeux vidéo, je n'étais pas très bon. Mes amis me battaient souvent.
Et lorsque je jouais seul, je restais aussi bloqué au même niveau. Je n'arrivais jamais à le passer. J'étais coincé. Jusqu'à ce qu'un ami m'apprenne l'existence des codes de triche. Si tu appuyais sur les bons boutons, tu pouvais débloquer un code qui t'aidait à passer plusieurs niveaux d'un coup. Tu pouvais passer du niveau 1 au niveau 10, si tu connaissais le code de triche. Les codes de triche ont changé le jeu pour moi. Alors j'appuyais sur les boutons et je sautais au niveau 10, où je restais bloqué jusqu'à ce que j'apprenne le code de triche suivant. Tu sais, je déteste te l'apprendre. Mais il n'y a pas de code de triche dans la vie chrétienne. Si le Saint-Esprit te convainc d'un péché en particulier, je ne crois pas que tu puisses simplement l'ignorer et passer au niveau suivant de ta vie, peu importe ce que c'est. Il n'existe pas de code de triche. Tu ne peux pas sauter des niveaux. Quand le roi David a commis l'adultère avec Bathsheba et a fait tuer son mari au combat, David n'était pas florissant spirituellement. Oui, il était toujours roi. Oui, Bathsheba est devenue sa femme, mais spirituellement, il était en désordre.
Ce n'est que lorsqu'il s'est repenti de son péché qu'il a pu aller de l'avant. Ce n'est que lorsqu'il a écouté la conviction du Saint-Esprit qu'il a pu grandir. Il n'y avait pas de code de triche. Il devait être sensible au Saint-Esprit pour continuer à progresser dans sa relation avec Dieu. Il devait franchir cette étape pour atteindre la suivante. Permets-moi de te demander, quel péché t'empêche d'être l'homme ou la femme de Dieu que tu veux être? Quel péché t'empêche de faire ce pas de foi que Dieu veut que tu fasses? Sur quoi le Seigneur travaille-t-il avec toi? Peut-être est-ce quelque chose qu'il veut façonner dans ton caractère. Peut-être est-ce quelque chose qui affecte tes relations. Peut-être est-ce l'orgueil. Peut-être une dépendance. Je ne sais pas ce que c'est. Mais grâce au Saint-Esprit, tu le sais. Encore une fois, le Saint-Esprit ne met pas cela sur ton cœur pour te condamner. Il met ce péché sur ton cœur afin que tu puisses en être libéré. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Ouvre ton cœur. Abandonne ce péché qui t'entrave, afin que tu puisses continuer à avancer vers la prochaine étape de foi que Dieu a préparée pour toi. En ce qui concerne la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. En ce qui concerne le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Nous voyons dans les versets 10 et 11 que le Saint-Esprit convainc aussi le monde au sujet de la justice et du jugement. La justice, parce que Jésus quitte le monde. En d'autres termes, puisque Jésus retourne auprès de Dieu, le Père au ciel, le Saint-Esprit sera désormais celui qui enseignera au monde ce qu'est la vraie justice.
C'est nécessaire parce que le monde ne sait pas ce qu'est la véritable justice. La justice, selon le monde, dit « Je suis plutôt une bonne personne, surtout lorsque nous nous comparons aux autres. » Nous pouvons penser « Eh bien, au moins je ne suis pas un meurtrier, donc je dois être une bonne personne, alors Dieu me laissera entrer au ciel. » Mais ce n'est pas la norme de Dieu. Ce n'est pas à qui nous devons nous comparer. Jésus, Christ, est notre modèle et notre exemple. Il était parfaitement juste, il était sans péché. Dans Philippiens 3, 9, Paul dit que notre position juste devant Dieu ne vient pas de nous-mêmes en essayant d'être une bonne personne, mais que notre justice vient de Jésus-Christ par la foi. Le monde a tout inversé. C'est pourquoi le Saint-Esprit vient convaincre le monde de cette vérité.
Il en va de même pour le jugement. Le monde a jugé Jésus,
mais il l'a jugé à tort. Ils l'ont déclaré coupable, mais c'était eux qui étaient coupables.
Mais ce n'est pas surprenant, car le diable, le prince de ce monde, est un menteur. Mais à la croix, Jésus a vaincu le péché et la mort une fois pour toutes. Ainsi, même si Satan est encore actif dans ce monde, Christ en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Ne sois donc pas surpris lorsque le monde parle de Jésus de manière erronée. En même temps, garde espoir, car le Saint-Esprit peut transformer des cœurs de pierre en cœurs de chair. Le Saint-Esprit peut ouvrir les yeux du cœur des gens. Le Saint-Esprit peut prendre des personnes qui étaient mortes dans leurs fautes et les rendre vivantes en Jésus-Christ. Alléluia. 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. 13. Quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir.
Jésus leur dit qu'il avait encore beaucoup de choses à leur dire, mais que c'était tout simplement trop pour les disciples à ce moment-là. Les disciples étaient attristés, les disciples étaient confus. Ils ne pouvaient pas supporter plus d'informations. Mais Jésus leur a promis que le Saint-Esprit les guiderait dans la vérité. Bien sûr, après la croix et la résurrection, les disciples ont beaucoup mieux compris les enseignements de Jésus. Guidés par le Saint-Esprit qui est venu à la Pentecôte, c'était les choses à venir. Mais le Saint-Esprit nous guide aussi dans la vérité. J'aime l'image d'un guide. Un guide est quelqu'un qui montre le chemin, qui t'accompagne pas à pas. Ainsi, le Saint-Esprit te guide dans la vérité. Autrement dit, lors du salut, il ne s'agit pas d'un immense transfert de vérité dans ton esprit de la part du Saint-Esprit. Ce n'est pas un grand téléchargement d'informations quand tu deviens croyant. Tout comme pour les disciples, ce serait trop difficile à supporter d'un seul coup. À la place, l'Esprit te guide dans la vérité. Le Saint-Esprit t'y conduit pas à pas, toujours plus profondément.
Et encore une fois, d'après mon expérience, en général le Saint-Esprit m'enseigne une chose à la fois, pas 100 choses en même temps. Par exemple, si je lis Matthieu 5, il peut y avoir un ou deux versets qui attirent mon attention, que le Saint-Esprit met sur mon cœur à ce moment-là. Peut-être que ces versets parlent de quelque chose que je vis à ce moment-là, ou peut-être que le Saint-Esprit me donne une compréhension que je n'avais jamais eue auparavant.
Maintenant, 3 mois plus tard, je peux lire ce même chapitre, Matthieu 5. Mais il peut y avoir un ou deux versets différents qui attirent mon attention, que le Saint-Esprit met sur mon cœur à ce moment-là. Je lis le même chapitre qu'il y a 3 mois, mais l'Esprit met différentes vérités sur mon cœur. Ces mêmes vérités étaient là il y a 3 mois. Mais peut-être que mes circonstances ont changé, et que le Saint-Esprit me guide vers cette vérité, dans ce moment précis.
C'est pourquoi nous lisons la Bible encore et encore et encore. La parole de Dieu ne change pas, mais nos vies changent, nos circonstances changent. Nous changeons et nous grandissons. Et tu peux lire un verset 30 fois, mais lors des 3 premières fois, le Saint-Esprit utilise ce verset pour te guider vers une vérité. Une prière simple que tu peux toujours faire avant de lire la Bible consiste à demander au Saint-Esprit de te guider dans la vérité. Et Dieu est fidèle pour entendre et répondre à cette prière. Dieu te guide individuellement dans la vérité, mais il nous guide aussi collectivement dans la vérité, en groupe, lorsque tu n'es pas seul. C'est un bon moment pour annoncer que mercredi, nous reprendrons nos études bibliques du mercredi soir, ici au centre commercial. À 19h, nous avons notre réunion de prière, et à 19h30, notre étude biblique. Si tu n'es jamais venu,
généralement, j'enseigne une partie de la Bible pendant 20 à 30 minutes, puis nous nous divisons en petits groupes pour discuter.
Mercredi, je veux commencer une étude biblique qui portera sur la vue d'ensemble de la Bible, comment l'Ancien Testament est lié au Nouveau Testament, comment toute l'histoire des Écritures trouve son « oui » et son « amen » en Jésus-Christ. Je rencontrai quelqu'un la semaine dernière qui me disait que participer à l'étude biblique l'année dernière avait vraiment été important pour sa croissance spirituelle ces derniers mois. Non seulement à cause du contenu, mais aussi grâce à la communauté, le fait de pouvoir parler de ces vérités avec d'autres frères et sœurs dans la foi. Alors je t'invite mercredi à faire un pas, à aller plus en profondeur dans la vérité alors que le Saint-Esprit te guide. Il y a encore une autre activité du Saint-Esprit que Jésus mentionne ici. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera.
Alors que le Saint-Esprit te guide dans la vérité de Dieu, il apporte la gloire à Jésus-Christ. Le Saint-Esprit élève le nom de Jésus. Le Saint-Esprit glorifie Christ pour lui donner la louange et l'honneur qu'il mérite. C'est un beau verset qui met en lumière l'œuvre de la Trinité. Dieu le Père a donné à Jésus le Fils toute la vérité, et le Saint-Esprit vient et prend cette vérité pour nous la déclarer. Le Saint-Esprit nous guide dans la vérité, ce qui apporte la gloire à notre Sauveur. Tout cela prend sens lorsque nous le décortiquons et l'expliquons. Mais nous constatons que les disciples avaient encore du mal à comprendre tout cela. Jésus leur dit,
« Sise, encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus, et encore un peu de temps, et vous me reverrez. » 17. Quelques-uns de ses disciples se dirent alors les uns aux autres, « Que signifie ce qu'il nous dit, encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus, et encore un peu de temps, et vous me reverrez, et aussi, parce que je vais auprès du Père. » 18. Il disait donc, « Que signifie ce « encore un peu de temps » Nous ne savons pas de quoi il parle. »
19. Jésus savait qu'il voulait l'interroger. Il leur dit donc, « Vous vous questionnez entre vous sur ce que j'ai dit. Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus, et encore un peu de temps, et vous me reverrez. »
20. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez, tandis que le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. »
Jésus leur dit, « Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus, mais ensuite vous me reverrez. » C'est facile pour nous à comprendre aujourd'hui. Nous savons que Jésus parle du temps entre la croix et le tombeau vide. Il parle du moment entre sa crucifixion, lorsque les disciples étaient remplis de tristesse, tandis que le monde se réjouissait, et sa résurrection, lorsque la tristesse des disciples a été changée en joie. Mais les disciples ne comprennent pas encore tout cela. Comment pourraient-ils? Cela n'est pas encore arrivé. Cela nous ramène au verset 13, lorsque le Saint-Esprit vient aux disciples et qu'ils sont alors capables de faire tous les liens.
C'est un peu comme quand j'étais enfant et que je posais une question à mes parents. Bien souvent, ils répondaient à ma question, mais je ne comprenais toujours pas. Alors ils me disaient, « Ne t'inquiète pas, tu comprendras avec le temps. » Et sur le moment, ce n'était pas très satisfaisant pour moi lorsqu'ils me disaient cela. Je voulais comprendre tout de suite, sur le moment. Je ne voulais pas attendre. Mais en grandissant, j'ai commencé à comprendre qu'ils avaient raison. Il y avait certaines choses pour lesquelles j'avais simplement besoin de plus de temps afin de les comprendre. Les disciples avaient simplement besoin de plus de temps pour comprendre tout ce que Jésus leur disait. Ils avaient besoin de l'aide du Saint-Esprit pour les guider dans la vérité.
Je pense que nous pouvons nous reconnaître là-dedans. La Bible est tellement pleine de vérité et de sagesse que cela peut parfois être accablant. Paul dit la même chose dans Romains 11, « Aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies impénétrables. »
il y a ici tant de vérités que cela peut sembler accablant.
Je veux tout savoir, et pourtant je sais que je ne sais pas tout. Je voudrais que le Saint-Esprit me donne tout d'un coup.
Mais encore une fois, la vie chrétienne se fait pas à pas, jour après jour.
Nous ne savons peut-être pas tout en ce moment, mais je crois que le Saint-Esprit t'a déjà donné assez de convictions, que le Saint-Esprit t'a déjà conduit dans assez de vérités pour faire ce prochain pas de foi auquel Dieu t'appelle. Dieu t'a donné ce que tu as besoin de savoir pour aujourd'hui,
sans t'accabler, en te donnant tout ce dont tu auras besoin de savoir pour les 50 prochaines années.
Est-ce que cela a du sens? Dieu t'a donné tout ce dont tu as besoin pour faire ce prochain pas dans ta vie, quel qu'il soit.
Ce sera toujours un pas de foi. Cela exigera toujours que tu fasses confiance au Seigneur, de tout ton cœur. Mais tu peux être encouragé par le fait que l'Esprit de Dieu est en toi, qu'il agit,
qu'il se meut et te guide. Et ce qui peut être obscur maintenant prendra sens avec le temps.
Jésus en donne une image aux disciples. Va. Et lorsqu'une femme accouche, elle éprouve de la tristesse, parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné naissance à l'enfant, elle ne se souvient plus de la douleur, tant elle est heureuse qu'un être humain soit venu au monde.
22. De même, vous aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse.
Mais je vous reverrai, votre cœur se réjouira, et personne ne vous ravira, votre joie.
Les disciples seront remplis de tristesse lorsque Jésus sera crucifié.
Mais cette tristesse sera transformée en joie après la résurrection.
Il compare cela à une femme qui accouche.
Le travail est difficile,
il y a de l'angoisse, mais cela ne se compare pas à la joie de la naissance du bébé.
Plus tôt cette semaine, j'étais à l'hôpital pour rendre visite à Fab et Déborah.
Vendredi, leur petite fille est née. Voici une photo. La famille se porte bien.
Avec un peu de chance, ils seront autorisés à sortir de l'hôpital aujourd'hui. Nous allons bientôt organiser un service de repas pour eux. Je n'étais pas là pour l'accouchement, Dieu soit loué, mais j'étais présent après la naissance. Et laissez-moi vous dire que dans cette chambre d'hôpital, il n'y avait que de la joie. Ils ont même nommé leur fille Ayo, ce qui signifie « joie » dans leur langue d'origine. Quelle que soit la nervosité, quelle que soit l'anxiété, quel que soit le chaos qui régnait pendant l'accouchement, tout cela avait disparu. Il ne restait plus que la joie en regardant leur fille nouveau-née.
Jésus a dit à ses disciples qu'ils seraient tristes lorsqu'ils seraient crucifiés.
Mais une fois qu'ils comprendraient qu'il est ressuscité des morts, cette joie surpasserait leur tristesse. Et personne ne pourrait leur enlever cette joie.
Permettez-moi de vous donner matière à réflexion à partir de ces versets, en lien avec la scène, ou peut-être l'appelez-vous le repas du Seigneur, que nous allons célébrer dans quelques instants. Dans certaines églises, voire dans beaucoup d'églises, ce moment peut sembler triste. Or, cela doit certes être un moment sérieux, puisque nous nous rappelons que Jésus est mort sur la croix pour nos péchés. Mais je ne pense pas que ce moment doive être triste.
Pourquoi ?
Parce que la joie de la résurrection l'emporte sur la tristesse de la croix. Pour reprendre la métaphore de Jésus, une mère pense davantage à l'enfant qui est né et à la joie que cela apporte qu'à la douleur de l'accouchement.
La joie est plus grande que la tristesse.
L'ambiance quand j'étais dans la chambre d'hôpital la semaine dernière n'était pas à la tristesse, mais à la joie.
Lorsque nous prenons la scène, nous nous souvenons de la croix, mais nous célébrons l'espérance, le miracle et la joie de la résurrection.
Dans certaines églises, lors de la célébration de la scène, l'atmosphère est si triste que l'on pourrait croire que Jésus n'a pas ressuscité.
Comme je l'ai dit, cela doit être un moment sérieux, mais il ne doit pas être triste.
Le tombeau est vide. Jésus est ressuscité.
La tristesse des disciples a été transformée en joie.
Nous ne nous attristons pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance.
Nous avons de l'espérance, nous avons de la joie,
et personne ne peut vous ôter cette joie. Ainsi, ce matin, alors que nous allons prendre la scène dans quelques instants, alors que nous nous rappelons la mort et la résurrection du Christ, je vous encourage à célébrer ce que Christ a fait, avec joie, avec allégresse, avec reconnaissance. Dernier verset. 23. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez sur rien. En vérité, je vous le dis, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. 24. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez, et vous recevrez, afin que votre joie soit complète.
Les disciples demandaient à Jésus, « Que veux-tu dire par « encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus, et encore un peu de temps, et vous me verrez ?» Les disciples avaient beaucoup de questions à poser à Jésus.
Mais Jésus leur dit qu'après la résurrection, tout deviendrait clair. Ils n'auraient plus de questions.
Jésus leur dit, « Avec le temps, tout deviendra clair. » Je pense que cela peut être vrai pour nous également.
Dieu nous appelle à faire un pas de foi. Et à ce moment-là, nous sommes remplis de questions.
Pourquoi Dieu? Quand? Comment? Où? Nous voulons des réponses à nos questions.
Nous voulons savoir comment tout va se dérouler. Mais Dieu dit, « Fais-moi simplement confiance. Suis-moi simplement. Mes voies sont bonnes. Je rends ton sentier droit. » Et généralement, après un certain temps, nous pouvons regarder en arrière et dire,
« Ah ah, c'était pour cela. C'était ainsi. C'était là. Voilà ce que Dieu faisait. »
Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers.
Jésus a dit aux disciples qu'ils n'auraient plus de questions, mais qu'ils commenceraient à prier au nom de Jésus, ce qu'ils n'avaient pas fait jusqu'à présent.
Comme Jésus l'a dit au verset 24, ils n'avaient pas prié au nom de Jésus, mais maintenant ils le feront. Et leur joie sera complète.
Permettez-moi de conclure avec la même question que j'ai posée au début. Quelle est la prochaine étape que l'Esprit de Dieu vous appelle à franchir?
Quelle que soit cette étape, le Saint-Esprit est là pour vous aider, pour se tenir à vos côtés et vous guider. Ô Dieu, tu es mon Dieu, et je te louerai toujours. Ô Dieu, tu es mon Dieu, et je te louerai toujours. Je te chercherai dès le matin, et j'apprendrai à marcher dans tes voies. Et pas à pas, tu me conduiras, et je te suivrai tous les jours de ma vie. Il n'y a pas de code de triche. Il n'y a pas d'ascenseur. La vie chrétienne se vit pas à pas. Ferez-vous ce prochain pas ?